L'affaire des piqueurs de fesses. Premier épisode, panique sur les boulevards.
Un documentaire de Julie Béressy et Antoine Coudert.
Paris, décembre 1819.
Paris est une ville densément peuplée, qui connaît une forte immigration d'hommes et de femmes qui viennent de France pour la plupart.
Dominique Godino, historienne.
Donc imaginez toute cette foule de gens qui sont obligés de se déplacer pour faire des achats, pour aller à leur travail, enfin pour tout ce que vous pouvez supposer. Alors, dans les milieux aisés, ils vont se déplacer en voiture, des fiacres ou autres, mais les milieux populaires, ils marchent à pied. Et puis dans les rues de Paris, elles sont extrêmement animées aussi par tous les marchands et marchandes des rues. Soit ils ont des petites bicoques, des baraques, soit parfois ils déambulent aussi, on en trouve partout. Et il y a beaucoup de femmes seules dans la rue. Celles qui sont les plus présentes, ce sont celles qui travaillent, les femmes des milieux populaires. Une partie des blanchisseuses, elles travaillent sur des bateaux lavoirs, amarrés sur la Seine. Les domestiques qui font les courses, les commissions pour leur maître. Les couturières qui vont rapporter la marchandise à leurs clientes. Et il y a très peu de trottoirs, ce sont des toutes petites rues. Dans les quartiers du centre, les rues sont très étroites, pas toujours pavées. Donc ça veut dire que les gens se touchent, se frôlent en permanence. Et les voitures, à cheval bien sûr, qui passent, qui créent des embouteillages, ce qu'on appelle des encombrements. Les gens se frôlent en permanence.
En fait, on est dans une grande ville, même une des deux plus grandes villes d'Europe à ce moment-là, un lieu où des inconnus se rencontrent.
Vincent Robert, historien.
Ce qui signifie, par conséquent, que tout est possible. Et il y a ces endroits où tout le monde se croise, les boulevards, il y a les passages couverts, il y a le Palais Royal, où en fait, tout le monde peut fréquenter tout le monde. C'est le début de la mauvaise saison, c'est la fin de l'automne, ce qui signifie que tout le monde, absolument tout le monde, est rentré à Paris, y compris la bonne société qui a passé l'été et une partie de l'automne dans ces châteaux de province. En gros, on est quand même dans une période où les gens ont tendance à penser que ça y est, on est enfin sorti du provisoire, puisque le gouvernement est désormais constitutionnel, pas vraiment libéral, mais en tout cas fermement constitutionnel. Les troupes étrangères ont quitté la France depuis quelques mois, donc l'impression c'est qu'un nouveau départ est possible. Sauf que le gouvernement de Louis XVIII est assez inquiet du progrès des libéraux dans l'opinion.
On est surtout dans un moment d'incertitude. Après l'épisode napoléonien, est-ce un retour à l'ancien régime avec Louis XVIII? A priori, non. Un peu de liberté, oui, avec un peu plus de presse.
Xavier Mauduit, historien.
Mais on n'est sûr de rien. Louis XVIII est le frère de Louis XVI, le roi guillotiné. Napoléon, en 1819, est encore vivant. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène avec la crainte qu'il puisse revenir un jour. Et puis, c'est une période où il y a l'idée que des sociétés secrètes sont partout. Et ça discute en coulisses. Il y a des complots.
C'est une ville à une époque de grandes tensions, d'effervescence. Et en particulier, depuis la première restauration, et décembre 1819, début d'année 1820, toutes sortes de bruits circulent par le bouche à oreille, alimentés aussi par un déluge de pamphlets qui se sont mis à circuler à la chute de l'Empire.
François Plou, historien.
C'est des cris qu'on désigne comme séditieux, des vives Napoléon, des cris insultants à l'égard des Bourbons, des propos tout simplement, de café ou de cabaret. Et plus particulièrement donc de faux bruits, des bruits de ville, de bruits alarmants, une effervescence politique ou proto-politique relayée dans la ville par la parole, au sein notamment des classes laborieuses, parmi les ouvriers qui ne cessaient de commenter l'actualité.
Je suis Julie Colombier, j'ai 16 ans, je suis couturière et j'ai été piquée deux fois à place du Palais Royal.
Je suis Mademoiselle Dorival et j'ai été piquée 7 fois.
Je suis Victorine Pommier, lingère rue Saint-Honoré. J'ai été piquée sur le seuil de ma boutique.
Le Moniteur, 4 décembre 1819.
Un particulier dont on a pu se procurer le signalement que d'une manière imparfaite,
se fait depuis quelque temps un plaisir cruel de piquer par derrière, soit avec un poinçon, soit avec une longue aiguille fixée au bout d'une canne ou d'un parapluie, les jeunes personnes de 15 à 20 ans que le hasard lui fait rencontrer dans les rues, sur les places ou dans les promenades publiques. Celles sur lesquelles il semble qu'il ait de préférence exercé jusqu'à ce jour sa coupable et dangereuse manie sont les jeunes personnes que les principes d'une éducation soignée, une timidité naturelle ou la crainte d'occasionner un éclat ou du scandale ont dû empêcher de se plaindre aussitôt qu'elles se sont senties blessées. Son Excellence, le ministre d'État, préfet de police, a donné les ordres les plus sévères pour l'arrestation de cet individu qui, jusqu'à ce moment, a échappé à toutes les recherches.
C'est le début d'une peur urbaine qui se diffuse donc dans la capitale à partir de quelques faits qui deviennent de plus en plus nombreux au fil des semaines.
Emmanuel Furex, historien.
Des faits tout à fait inédits et pour lesquels on utilise un nouveau mot, le mot de piqueur. Ce sont des individus qu'on n'arrive pas à identifier et qui ont frappé plusieurs dizaines et peut-être même plusieurs centaines de victimes à l'aide d'outils tranchants, de poinçons, d'haleines, d'aiguilles, sans provoquer de blessures graves, mais en faisant couler le sang.
L'affaire des piqueurs, ça évoque immédiatement quelque chose qui est lié à la sexualité. C'est ça qui est très très fort. Hein. Dans une société qui est globalement corsetée, avec les femmes qui ont leur place bien précise, le corps est invisibilisé, les vêtements cachent le corps. Et là, avec ces choses qui piquent, c'est un accès au corps et dans sa partie la plus charnue, bien souvent. Et donc là, avec l'affaire des piqueurs, on a quelque chose qui déstabilise la société dans une vision telle que Napoléon l'a construite. C'est le code civil, la Légion d'honneur, chacun sa place. Eh bien, vous avez quelque chose qui se prolonge sous la Restauration. On va dire que ce socle napoléonien n'est pas rejeté. Au contraire, il sert d'appui à la Restauration pour développer son pouvoir. Bon, cette société, elle est là, elle est figée. Et d'un seul coup, ici, il y a quelque chose qui fait une faille.
Et ça, moi, je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux choses. Alors, il y a le fait que c'est le contact, évidemment, des deux sexes.
Gilles Malandin. Historien.
Et le fait qu'effectivement, par l'arme blanche, eh bien, il y a effectivement une forme de viol, en tout cas une violation de l'intimité. Alors l'intimité, c'est pas le terme de l'époque, on parle pas beaucoup d'intimité à l'époque, mais de la pudeur en tout cas de ces jeunes femmes. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement ressenti et extrêmement choquant. La culture collective est faite de frontières et là, on transgresse des frontières. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui renverse l'ordre des choses, qui remet en question les règles fondamentales sur lesquelles repose la société.
C'est subreptice, c'est étonnant, incompréhensible. Ça se passe dans un lieu dans lequel on n'attend pas. On n'est pas du tout dans une relation de jeu d'aiguille de BDSM, dans laquelle il y a le consentement et la volonté d'aller vers cet acte.
Morgan Morcel, doctorant en philosophie.
Là, on se promène dans la rue, puis tout d'un coup, quelque chose nous pique. Donc il y a aussi l'entrée dans le plus intime, en tant que ça traverse la peau, la dernière frontière de l'intimité au moment où on se promène dans un espace public. Et donc il y a d'abord cette panique-là, cette terreur, qui va expliquer l'état de sidération que raconte la presse quand elle reprend les témoignages pour l'affaire des différentes femmes qui sont piquées.
Dans ces rues très densément peuplées, dans ces rues où il y a sans arrêt du mouvement, les agressions physiques, elles ne sont pas rares, entre hommes et femmes, parce qu'on s'est donné un coup, parce que on a mal répondu, on a, pour plein de raisons, des bagarres, des petits tricks, voilà, des interpellations. Interpellations sexuelles ou appelant telle femme à monter dans la voiture d'un tel, à rejoindre un tel avec des propositions sans équivoque du tout. Attouchement, oui aussi, parce qu'on se frôle en permanence. Vous avez des femmes qui peuvent dire par exemple que, mais pas devant le commissaire, mais pour telle ou telle occasion, j'avais trouvé ça une fois, elle racontait, je ne sais plus à quelle occasion c'était, il y avait du monde, et il y avait quelqu'un qui avait mis la main sous les jupes. Ou dans le corsage. Voilà, ça fait partie, si vous voulez, de mode de vie parisien. Les femmes sont souvent décrites, d'ailleurs, comme un compagnon vétéré au XVIIIe siècle qui parle de gibier. Oui, c'est un gibier.
Journal de Paris, 11 décembre 1819.
On ne parle plus aujourd'hui que des piqueurs et des femmes piquées. Chacun raconte son histoire qu'il a soin de rendre plus intéressante en l'accompagnant de détails imaginés à plaisir. Les jeunes gens même veulent avoir été piqués. Ces bruits répandus par les journaux ont jeté dans le public une sorte d'effroi, une alarme telle qu'une demoiselle prend la fuite si on semble l'approcher de trop près. La terreur enfin a gagné celle qui jusqu'à présent avait paru les plus intrépides.
Je suis mademoiselle Laurent, j'ai 14 ans, et moi aussi j'ai été piquée deux fois rue Saint-Honoré. Ma mère a poursuivi le piqueur, mais il s'est enfui dans le
bâtiment. Je suis mademoiselle Gauthier, j'étais avec ma sœur, et l'homme, il avait un mouchoir noir sur le bras, et il nous a piquées toutes les deux.
Et puis la panique, petit à petit, avec l'accumulation des histoires, avec aussi sa répartition sur le terrain national, puisque ça ne va pas rester simplement à Paris, mais on marque des cas dans d'autres villes françaises, va devenir une panique collective. Et là, ce qui fait l'intérêt de cette affaire et ce qui fait la panique qu'elle génère collectivement, c'est qu'on ne peut expliquer la cause de ces actes, la cause finale.
L'ampleur prise par l'affaire est très liée à la diffusion de la nouvelle dans l'espace public, par la presse, puis sa transformation en rumeur. Des fausses affaires de piqûres qui sont signalées ici et là, à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de province. Le fait que des écoliers jouent au jeu des piqueurs, que des clients d'une maison de tolérance à Lyon menacent de faire comme les piqueurs de Paris. Qu'à Rouen, une foule se précipite sur un piqueur présumé. Donc la panique collective qui était au départ circonscrite à Paris, par le biais de la presse, puis son commentaire, évidemment, dans les espaces de sociabilité, les cafés, les cabarets, l'espace de la rue, tout simplement, le rôle de la chanson, puisque des chansons liées au thème des piqûres, hein, les piqûres à la mode sont publiées et colportées dans l'espace public. Tout ça cristallise une multiplication de rumeurs et de paniques collectives.
Des dames, vous savez la peur, pour certains insolents outrages, partout on parle du piqueur. Toutes les belles de Paris étant par l'humeur attaquées, contre les amants, les maris, on ne voit que femmes piquées.
Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elle passe par le bouche à oreille essentiellement, étant bien entendu qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que le bouche à oreille fonctionne. J'ai trouvé, en lisant les journaux, que les cochers de fiacre avaient une certaine tendance à expliquer aux belles dames qui serait désireuse de rentrer chez elle à pied, que c'est beaucoup plus sûr de prendre leur voiture. En fait, il y a des tas de relais possibles à une rumeur.
Quel monstre affreux d'horreurs avides, farouche ennemi des humains, osant ces lieux d'un dard perfide, armer ses sanguinaires mains. Quelle infernale jouissance trouve ce coupable effronté dans les plaintes de l'innocence et les larmes de la beauté.
Très vite, dans la mesure où les auteurs restent invisibles, indéterminés, dans la mesure aussi où l'année 1819 est un moment de basculement, où le régime qui commençait à se libéraliser tend à se fermer sur lui-même, c'est le moment où un projet de loi électorale de réforme d'une loi déjà très restrictive, puisque seuls 100 000 hommes étaient électeurs dans la France de 1819. Donc, dans ce contexte-là de fermeture du régime, le fait divers est utilisé à des fins politiques par toutes les tendances qui s'opposent à ce moment-là. Donc, du côté de l'opposition libérale, on accuse en particulier les ultras, ce qu'on appelait les ultras à l'époque, c'est-à-dire les ultra-royalistes, l'extrême droite de l'époque, de reconduire une sorte de nouvelle terreur blanche, hein, c'est-à-dire de terreur contre-révolutionnaire, comme il y en avait eu au début de la Deuxième Restauration, hein, en 1815, en s'attaquant au corps de victimes innocentes. Et de ce point de vue, c'est la nature des blessures, c'est la nature des coups qui rappelle des événements à l'époque proches et traumatiques, ceux de la Terreur blanche de 1815, c'est-à-dire le fait que des femmes dites jacobines ou bonapartistes aient été frappées, fouettées, piquées même à l'aide d'un battoir royal, disait-on, c'est-à-dire d'un fouet muni de piques et marquant sur le corps des femmes des fleurs de lys, comme une sorte de châtiment expiatoire. Et donc, l'opposition libérale note le rapprochement entre ces piqûres infligées au corps des femmes, et notamment sur les fesses, rapproche donc ces gestes de ceux de 1815. La forme des piqûres est aussi interprétée en termes politiques. La forme en croix de certaines piqûres incite certains libéraux à parler de complot jésuite. Du côté maintenant, du côté du pouvoir, la prolifération de ces faits divers fait que c'est l'opposition libérale qui, au contraire, est accusée, mise sur le banc des accusés, en considérant que ces troubles sont destinés à provoquer une panique collective et à susciter des désordres, et donc potentiellement une insurrection, un complot. Voilà, on est dans cet imaginaire du complot des sociétés secrètes qui est très fertile sous la Restauration.
La Renommée, 12 décembre 1819.
Comment se fait-il que des dénonciations soient parvenues aux autorités depuis environ 3 semaines et que la police n'ait pu parvenir encore à connaître l'auteur ou les auteurs de ces attentats? Comment se fait-il qu'aucun des hommes arrêtés n'ait été mis en jugement? Comment se fait-il enfin qu'aujourd'hui le journal de la police traite de bagatelle, un genre nouveau de crime qui répand l'effroi dans les familles, lorsque ses rédacteurs ne peuvent ignorer la quantité des dépositions faites chez plusieurs commissaires et le nombre des plaintes qui se trouvent entre les mains d'un magistrat chargé d'en suivre la poursuite?
Mais que fait la police ?
Dans la hiérarchie policière de ce début du 19e siècle, les vrais policiers sont des fonctionnaires. Alors, des notables, hein, on peut le dire, quand il s'agit du préfet de police, mis en place par Napoléon. Notables, évident. Mais les commissaires aussi, ce sont des gens bien, des lettrés. On est très loin, en fait, du policier de base. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a comme un manque. Il y a un fossé gigantesque entre la proximité du terrain et l'administration.
Le système de surveillance politique au début de la Restauration, qui ne fait que reproduire des choses qui étaient déjà très bien huilées précédemment, consiste en grande partie pour la police, dont les effectifs sont assez peu nombreux, à utiliser donc des mouchards ou des mouches, hein, des espions rémunérés, qui sont par exemple des maçons, pour prendre un exemple typique, hein, un maçon rémunéré va se mêler aux maçons réunis chaque matin dans la place de grève et écouter leurs conversations et la reproduire. Alors, mais on utilise aussi des mouchards qui sont recrutés dans des milieux plus aisés, qui vont espionner les salons. Or, il est tout à fait évident que ces mouchards ne se contentent pas d'enregistrer les paroles subversives, mais la suscitent. On lance même des rumeurs ou des faux bruits, qui parfois leur reviennent d'ailleurs, selon un mécanisme assez amusant. Et il est très clair, hein, que ces mouchards qui jouent le rôle donc de provocateurs, hein, qui cherchent à susciter la parole subversive, ont contribué à se créer ce climat d'inquiétude, d'effervescence, que la police elle-même enregistre. C'est un processus circulaire assez intéressant.
Le drapeau blanc, 13 décembre 1819.
Nous avions rapporté qu'on avait cherché à nous faire entendre que ces piqueurs, favorisés par l'impunité, étaient des instruments employés par la police elle-même, qui a reçu d'en haut la mission de détourner l'attention publique des objets importants qui vont faire le sujet des délibérations des chambres. Nous avions ajouté que la police répondait à cette accusation grave, et vous avez reçu l'ordre de garder le silence. Et si le fait rapporté aujourd'hui dans un journal est exact, comme nous devons le supposer, s'il est vrai qu'un piqueur assez maladroit pour se laisser arrêter ait été reconnu pour être un homme de la police, ne serait-il pas de toute justice de considérer la police comme coupable de plus grands forfaits, en se jouant ainsi de la sécurité et de la vie des citoyens qu'elle est exclusivement chargée de protéger ?
L'hypothèse d'une machination policière, sans être du tout une certitude, enfin, on peut très bien comprendre qu'elle soit mise en avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la police de l'époque est une police qui agit essentiellement en secret, qui agit de façon déloyale, hein, en civil, pour surprendre les malfaiteurs. Et Vidocq en est, si vous voulez, la figure emblématique.
Alors Vidocq, c'est le bagnard devenu policier. Et en 1818, il obtient du roi Louis XVIII une grâce. Alors c'est très important parce que ça y est, il est personnage officiel. Et puis Vidocq est déjà connu de tout le monde parce qu'il a une carrure absolument incroyable. C'est un charmeur, faut le dire. Il est imposant quand on croise Vidocq, c'est pas rien. Et puis surtout, on commence à raconter ses histoires. Il se déguise beaucoup, il se déguise même en femme pour aller explorer les bas-fonds. Faut pas qu'il soit reconnu, alors il se grime sans arrêt et ça fascine énormément. On est dans ce Paris des bas-fonds, celui qui un peu plus tard est décrit par Eugène Sue. C'est un monde merveilleux, celui des mystères de Paris qui fascine énormément, qui fascine le bourgeois. Et puis comme il y a beaucoup de vols, on se dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais pour cette année 1819, on est à un moment très particulier parce que la grande armée de Napoléon, on a envie de dire, est au chômage. Ce sont les demi-soldes. On a coupé leurs soldes en deux parce qu'on ne sait plus quoi faire de tous ces gens-là. Et donc arrivent tous ces gens qui n'ont plus vraiment de métier, ils sont coupés de leurs racines, qui savent manier les armes. Et puis, il faut le rappeler, dans cette économie du 19e siècle, c'est un peu le cas aujourd'hui encore, mais surtout au 19e siècle, il y a des périodes, notamment l'hiver, où si vous êtes maçon, vous ne travaillez pas. Ben, ça gèle, vous ne pouvez pas travailler. Donc, que faire? Parce qu'il faut bien vivre. Et donc, c'est tous ces gens-là qui errent et qui font particulièrement peur. On a tous ces voleurs de partout, cette incertitude, et on se dit, Vidocq a été très efficace et il fait lui-même la publicité de son action. Et donc, voilà, dans ces années 1818, 19, 20, ça commence à être quelqu'un dont on connaît le nom, on sait son efficacité et on sait aussi qu'il faut se méfier de lui.
Supplément aux mémoires de Vidocq, 1830.
L'individu que, suivant son expression favorite, Vidocq projetait d'entortiller et d'enfoncer, était un tailleur nommé Bizol, qui travaillait pour plusieurs agents de la brigade de sûreté. Quelques-uns lui devaient de l'argent. Vidocq pensa que ces derniers se prêteraient volontiers à le seconder dans ses projets. Il s'appliqua à connaître leurs dispositions, et lorsqu'il fut certain d'être aidé dans son odieuse machination, il s'occupa de chercher des témoins, de préparer des reconnaissances, afin de rassembler tous les éléments d'une confrontation dans laquelle Bizol succomberait.
C'est le moment où l'affaire s'emballe, c'est-à-dire le moment où l'affaire devient véritablement politique et conflictuelle avec une opposition libérale qui dénonce les agissements du pouvoir. C'est le moment où, désespérément, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur cherchent à élucider ces faits divers et à trouver des coupables, sans y parvenir.
Préfecture de police, 2e division. D'après une prescription d'hier, Son Excellence charge le sous-signé de faire connaître à toutes les brigades de sûreté qu'elle donnera une gratification de 500 francs à celui qui arrêtera ou fera arrêter le misérable qui, depuis quelque temps, se fait un jeu cruel de piquer les jeunes personnes dans la rue.
Le beurre ne peut m'échapper, disait Vidocq à ses compères. J'ai sous la main un couillet qui fait ma balle. Il a l'air farouche, il passe pour brusque. C'est un homme simple, sans défense. Que faut-il de plus pour qu'on le condamne? Cela ira d'emblée. Les spectateurs le jugeront sur la mine et le tribunal, prévenu par ses antécédents, sévira contre lui sans difficulté.
Description du suspect. Âgé de 30 ans environ, taille de 5 pieds, maigre, teint blême, un peu olivâtre, figure mélancolique, bien vêtu en couleur foncée, marchant la tête baissée, les épaules un peu voûtées et les bras ballants.
Un suspect idéal, un tailleur, va en quelque sorte devenir le bouc émissaire, construit probablement en grande partie par la police de la Restauration, le bouc émissaire de ces faits divers mystérieux, et un procès expéditif aura lieu dès janvier et février 1820. Les conditions dans lesquelles ce fameux Bizol a été suspecté, puis arrêté, restent mystérieuses. Les rapports officiels du préfet de police n'explicitent pas cela. On a l'impression que c'est dans l'ombre que ce coupable idéal a été désigné, d'où les accusations à l'endroit de la brigade de sûreté et le fait que l'ombre de Vidocq plane sur cette affaire sans qu'on puisse en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, sur une trentaine de témoins convoquées, seules trois personnes reconnaissent effectivement les traits de Bizeul, comme ceux du piqueur dont elles ont été victimes.
Le 1er février 1820, après une délibération d'une heure, le tribunal a condamné Auguste Bizeul à 5 ans d'emprisonnement et 500 francs d'amende. Bizeul s'est écrié que son jugement était une iniquité et il a chargé son avocat de former appel. Appel qui sera également rejeté. C'était le premier épisode de l'affaire des piqueurs de fesses, avec les historiens Dominique Godineau, Vincent Robert, Xavier Mauduit, François Plou, Emmanuel Furex, Gilles Malandin et Morgan Morcel, doctorant en philosophie. Merci à Cécile, Charlotte, Julie, Marie et Paloma pour avoir prêté leur voix aux femmes piquées. Prise de son, Jérémy Tuile. Mixage, Amandine Grévos-Frichoux. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Julie Béressy et Antoine Couder. Ce documentaire a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée. À suivre, le deuxième épisode de l'affaire des piqueurs de fesses.
J'aime aussi ta langue, ton cerveau, tes sinus, ta glande thyroïdale et ton œsophage. J'aime aussi ton foie, ton estomac, tes intestins, ta vessie et ton utérus. Oh, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses.
J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses. J'aime tes fesses.